Bonjour à chacun. Aujourd'hui, jour de Pentecôte, dimanche 31 mai 2020, nous lirons quelques versets dans le livre des Actes. Et tout d'abord, au chapitre 1, versets 4 à 8. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. « C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. » Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Deuxième passage, au chapitre 2, versets 1 à 6. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Après les événements traumatisants pour les apôtres, ou les disciples, en général, de la crucifixion de Jésus, sa résurrection et son ascension, le jour vient où ils se retrouvent tous ensemble, peut-être dans la chambre haute, et subitement, ils entendent le bruit d'un vent violent qui remplit la maison entière où ils sont assis. Alors des langues comme des flammes de feu apparaissent et se posent sur chacun d'entre eux. Imaginez un peu comment ils pouvaient se sentir à ce moment-là. Si vous étiez à leur place, en attendant que Dieu répande son esprit sur vous comme il l'avait promis, qu'il vous remplisse de son esprit, quels seraient vos sentiments? Ce qui arrive au temps des apôtres, c'est des signes évidemment surnaturels de la présence du Saint-Esprit, le vent et le feu. Remarquez que Luc dit que les disciples entendent un bruit comme celui d'un vent violent venu du ciel. Il n'y a aucune mention d'un vent réel, mais plutôt d'un signe surnaturel, symbole de quelque chose qui est sur le point d'arriver, symbole d'une grande puissance. Et ensuite, il y a les langues de feu. Le feu est le symbole fréquent de la pureté dans l'Ancien Testament. Moïse a rencontré Dieu au buisson ardent. Quand Ésaïe a été appelé, vous vous souvenez que Dieu lui a envoyé un ange avec une braise pour purifier ses lèvres, après quoi il a pu transmettre les paroles de Dieu avec confiance. Troisième exemple, les animaux qui entourent le trône de Dieu dans la vision d'Ézéchiel, chapitre 1, verset 13, sont des créatures de feu. Donc ces choses qui semblent être des langues de feu symbolisent peut-être Dieu purifiant ses disciples. Au moins symbolisent-elles leur préparation pour proclamer la parole de Dieu. Mais cette œuvre de l'Esprit est différente de ces exemples de l'Ancien Testament. Maintenant, l'Esprit est donné à chaque croyant. Chacun de nous reçoit de Dieu d'abord sa puissance de purification, puis les paroles qu'il veut que nous prononcions. Regardez le verset 4. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Cela n'a pas l'air d'être la même sorte de parler les langues que ce que nous rencontrons dans d'autres récits, tels 1 Corinthiens 12, parce que tout de suite nous lisons qu'il y a des gens Au jour de la Pentecôte, il y a des gens de chaque nation sous le ciel visitant Jérusalem et que tous entendent les disciples de Jésus parlant dans leur propre langue. Les langues que l'on parle à ce moment-là sont des langues terrestres, parfaitement compréhensibles. Vous vous rendez compte de la signification de ce phénomène en continuant la lecture de ce récit au chapitre 2. Regardez donc au verset 11. « Chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies », disent les auditeurs qui se trouvent là devant les apôtres. Si vous vous êtes demandé comment quelques-uns de ses disciples ont pu prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, vous avez peut-être une réponse assez logique ici. C'est l'Esprit-Saint qui le leur a permis. Aujourd'hui, le premier travail d'un missionnaire sur le terrain, c'est d'apprendre la langue locale pour pouvoir communiquer avec les gens de la région. Déjà au jour de la Pentecôte, les gens venant de partout dans le monde entendent l'Évangile, sont capables de le comprendre dans leur propre langue. Ne fais pas de doute que certains d'entre eux repartiront dans leur pays et diront à d'autres ce qu'ils ont vu, entendu et compris, et donc que l'Évangile sera répandu. Dans d'autres cas, les apôtres et leurs successeurs voyageront pour parler de Jésus. L'Évangile commence à être propagé à toutes les nations. Alors nous commençons à voir comment l'Esprit-Saint change les choses et aussi l'impact de son arrivée sur les premiers chrétiens. Il vient avec les signes d'une grande puissance. Il vient sur tous les disciples de Jésus. Il leur donne le droit de parler avec vigueur aux gens de chaque tribu et de chaque langue. Mais quand nous continuons notre lecture, nous découvrons plus encore. D'abord, les gens sont perplexes devant ce qui arrive. D'autres commencent à se moquer d'eux, les accusant d'avoir trop bu dès le matin, et Pierre se lève et commence à parler. Vous lirez son discours à partir du verset 14 de acte 2. Il parle en vérité de ce qu'il sait des actes de Dieu, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. Il témoigne avec force. Et vous pouvez imaginer que cela étonne davantage encore. Parce que ce pêcheur galiléen commence à exposer les saintes écritures comme un de leurs rabbins le ferait. En fait, ce que Pierre fait est un exemple particulier de ce qu'ils ont tous fait. Mais qu'avons-nous lu au verset 11 ? Chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies, peut-on entendre. Et que fait Pierre ? Eh bien, il parle dans son discours des actes de puissance de Dieu. Tous les disciples vont faire de même. La puissance de l'Esprit qui a permis aux prophètes de l'Ancien Testament de transmettre les paroles de Dieu a maintenant été donnée à l'Église. L'Esprit accorde donc à chacun de ceux qui sont enfants de Dieu le pouvoir de proclamer la parole de Dieu. Qui plus est, non seulement les disciples reçoivent le pouvoir de parler, mais subitement leurs peurs et leurs hésitations disparaissent. Ils parlent avec une grande audace. L'image des disciples se cachant dans une chambre haute par crainte des Juifs est en contraste avec Pierre qui prend la parole et appelle les gens à se repentir de leur rébellion, leur disant qu'ils ont mis à mort Jésus, le Messie. Et Pierre supplie ceux à qui il s'adresse qu'ils entendent enfin et acceptent la parole de Dieu. Pierre parle de la personne de Jésus, de ce que celui-ci a fait, de ce qui lui est arrivé. La fin de son message contient un appel à se repentir donc et appel aussi à être baptisé comme signe de fidélité à Jésus-Christ. Il inclut l'assurance que la mort de Jésus signifie que leurs péchés seront pardonnés. Et il inclut la promesse que l'Esprit-Saint leur sera donné à eux aussi s'ils se tournent vers le Seigneur. C'est une des choses encourageantes de cette expérience de Pentecôte. Ce n'est pas seulement quelque chose qui s'est passé au début de l'Église chrétienne, c'est une expérience qui est en cours. Jésus continue à travailler par son Église pour que chaque génération se repente, place sa confiance dans le Seigneur et reçoive ainsi le don de l'Esprit-Saint. Évidemment, nous devrions aujourd'hui avoir plus d'assurance Lorsque nous prêchons l'évangile que les disciples n'en avaient il y a 2000 ans, au moins parce que nous pouvons voir l'effet de la prédication sur les générations qui nous ont précédés. Nous devrions savoir à quoi nous attendre. Regardez ce qui arrive et comment l'Esprit Saint travaille, non seulement dans les cœurs de l'apôtre Pierre et des autres disciples, mais aussi dans les cœurs de ses auditeurs. Eh bien, ils sont touchés au plus profond de leur cœur. Et ils demandent, verset 37 de acte 2, « Que devons-nous faire ?» Et la réponse est celle-ci, « Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qui étaient sauvés. » Verset 47. Et c'est ce qui arrive, l'esprit des gens a changé. Ils admettent que Jésus est le Messie promis, le Seigneur, le Fils de Dieu, ils se donnent à Christ par milliers, et de plus en plus de personnes partagent leur foi nouvelle. Écoutez, l'Esprit Saint continue son œuvre. Il commence à se rencontrer, prier, apprendre par les apôtres, tous ceux qui se sont donnés au Seigneur. Il commence à se souvenir de la mort de Christ et de la résurrection par la célébration du repas du Seigneur, et ils prient ensemble aussi. Il y a à ce moment-là surabondance de générosité, d'amitié vraie, et ceux qui ont des possessions les vendent pour soutenir ceux qui n'ont rien. L'Église primitive vit comme Israël devait vivre. Elle forme donc une communauté centrée autour de l'adoration de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, une communauté où la gloire de Dieu est révélée aux nations, de telle sorte que ces nations veulent rejoindre le peuple de Dieu. C'est une communauté qui proclame avec joie l'évangile de Jésus-Christ, l'offre de pardon et de paix avec Dieu, que la mort et la résurrection de Jésus ont rendu possible. Et il faut aussi se rendre compte que cette première communauté d'Église est la même communauté à laquelle nous appartenons maintenant. Nous avons le même Esprit Saint qui vit en nous. Le même Esprit Saint inspire chacun d'entre nous à réaliser ce que Dieu attend de nous. Nous devrions donc aussi être une communauté centrée autour de l'adoration de Dieu et de son Fils. Nous devrions aussi être une communauté qui prend soin de ses membres de façon pratique, qui relève le faible, qui partage ses ressources. Nous devrions aussi être une communauté dans laquelle la gloire de Dieu est visible et où les gens entendent l'appel de Dieu, changer leur vie et venir à lui. Finalement, ce n'est peut-être pas une chose si difficile que de partager l'Évangile avec les gens. D'abord, restez en contact avec le monde. Ensuite, priez pour vos amis non chrétiens. Et enfin, parlez de votre foi avec vos amis. Mais l'expérience montre que ce n'est pas toujours évident. Alors ne soyez pas craintifs, mais encouragés. L'Esprit Saint est celui qui touchera le cœur des gens. Dieu nous permettra à nous de franchir les barrières de la langue, les barrières culturelles, même celles qui existent dans notre propre cercle d'amis peut-être. C'est en regardant ce que l'Esprit Saint a fait pour ses premiers chrétiens que nous verrons ce qu'il fera pour nous, et voilà pourquoi nous pouvons garder confiance. L'Esprit se montre en puissance, il purifie pour permettre de parler. Il permet de parler de sorte que ceux qui écoutent comprennent. Il permet aux enfants de Dieu de comprendre et d'interpréter les Saintes Écritures. Il leur donne le droit de proclamer la parole de Dieu. Il leur donne le droit d'appeler les gens à se repentir. Il touche le cœur de ces personnes et les transforme. Alors soyons confiants et prions pour que l'Esprit Saint continue à nous remplir de sa puissance et à nous inspirer comme il l'a fait avec ses premiers chrétiens. Soyons confiants et allons de l'avant. Osons ce que l'Esprit nous permet. Amen.